Il y a un contraste absolu, presque vertigineux en fait, qui saute aux yeux quand on regarde la trajectoire économique marocaine en ce début d'année 2026.
Ouais, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire.
D'un côté, on a ce chèque colossal, on parle de 190 milliards de dirhams débloqués pour des trains à grande vitesse, des ports massifs, des stades flambant neufs. Et de l'autre côté, on a le citoyen ordinaire.
Le citoyen qui, lui, vit une toute autre réalité au quotidien, quoi.
Exactement. Ce même citoyen, il voit le remboursement de ses soins médicaux calculé sur une grille de prix, tiens-toi bien, qui n'a pas bougé depuis l'année 2006.
C'est un grand écart monumental.
C'est fou. Donc aujourd'hui, on se lance dans une exploration approfondie de cette dualité. On va analyser comment une nation se retrouve un peu écartelée entre des ambitions mondiales spectaculaires et puis l'urgence vitale de protéger le frigo de ses citoyens.
Et c'est vraiment le fil rouge de toute l'économie marocaine actuelle, hein. On a souvent tendance à regarder ça soit par la macroéconomie pure avec les méga-projets, soit par le pouvoir d'achat. Mais là, les deux entrent en collision frontale.
Je suis fascinée par cette dynamique. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est un véritable numéro de funambule. Et cette collision, comme tu dis, elle commence souvent par un choc qui vient de l'extérieur, non ?
Ben oui, toujours. Et le contexte mondial de ce printemps 2026, il fait absolument aucun cadeau. On a une urgence immédiate avec cette crise logistique et énergétique.
Ouais, les tensions au Moyen-Orient.
Voilà. Le détroit d'Ormuz fonctionne au ralenti, on frôle même la fermeture par moment. Et du coup, le résultat direct, c'est que les grandes routes maritimes mondiales sont complètement déviées.
Elles évitent les zones de conflit, et c'est là que Tangemed entre en jeu.
Exactement. Tangemed, tout au nord du Maroc, se retrouve en première ligne pour absorber ce trafic monstre. Et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est vraiment une position à double tranchant.
J'imagine que pour les statistiques brutes du port, c'est génial.
Ah mais c'est un triomphe absolu. Le port consolide sa place de premier port d'Afrique, il devient le hub incontournable de la Méditerranée, le volume explose. Mais la facture de cette réorganisation logistique, elle est d'une brutalité inouïe.
Les transporteurs imposent des surtaxes gigantesques.
Gigantesques, ouais. On est sur quoi là ?
On parle de frais additionnels qui vont de 1500 à 3300 dollars par conteneur.
Et par conteneur, c'est énorme. Surtout que dans ces boîtes, il y a de tout. Du blé, de l'électronique, des pièces détachées. Et ces 3000 dollars, ils ne s'évaporent pas par magie.
Non, c'est le consommateur final qui finit par payer, j'imagine.
Forcément. Tout est répercuté sur la chaîne. Et si tu ajoutes à ça la flambée de l'énergie, je rappelle que le gaz butane a pris 68% d'augmentation sur les marchés internationaux depuis mars, on a la tempête parfaite.
Que moi ? Mais du coup, l'État déploie une sorte de bouclier thermique, non ? C'est comme si la météo mondiale était à la tempête et que le gouvernement tenait un immense parapluie.
C'est exactement l'idée du bouclier, ouais.
Parce que la fameuse bonbonne de gaz qu'on trouve dans chaque cuisine marocaine, son prix ne bouge pas, l'électricité non plus, et ils sont même allés plus loin pour le transport, je crois.
Tout à fait. L'État a validé des aides directes pour 87 000 professionnels du transport. Des chauffeurs de taxi, aux routiers, tout le monde est sous perfusion.
87 000 professionnels subventionnés, mais ça doit coûter une fortune.
Une fortune absolue. Mais attention, ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas qu'une mesure sociale. C'est surtout une stratégie anti-inflationniste vitale. C'est pour éviter l'effet domino.
L'effet domino, c'est-à-dire ?
Prends un camion qui descend des légumes de la région du Sousse jusqu'à Casablanca. S'il paie son gasoil au prix mondial actuel, le coût du trajet double. Ce surcoût, il va direct sur le prix de la tomate au marché.
Ah ouais, du coup, le client paye plus cher, il réclame une hausse de salaire, l'entreprise augmente ses prix pour payer ce salaire, et c'est la spirale.
Exactement. C'est la spirale incontrôlable. Donc l'État préfère payer à la source.
Je vois. C'est comme bloquer la soupape d'une cocotte minute. Ça évite que ça siffle trop fort dans la cuisine aujourd'hui, mais la pression financière, elle s'accumule gravement à l'intérieur pour les finances publiques.
Ouais, le gouvernement paye la différence de sa poche et ça coûte extrêmement cher.
Mais justement, cet argent dépensé sans compter, il vient bien de quelque part. Et c'est là qu'il y a un truc que je saisis pas avec la politique monétaire.
Ah, la banque centrale, Banque Al-Maghrib.
Ouais, on a l'État qui ouvre grand les vannes budgétaires pour jouer les pompiers face à l'inflation. Et pendant ce temps-là, Banque Al-Maghrib maintient son taux directeur à 2,25% en 2026.
C'est vrai que ça peut surprendre.
Oui. D'habitude, quand un État dépense autant et qu'il y a une pression sur les prix, la Banque centrale, elle resserre le crédit, elle monte les taux pour calmer le jeu. Est-ce que c'est une forme d'inaction, là, du statu quo ?
Pas du tout. En fait, c'est un équilibre sur un fil. Pour comprendre ça, il faut regarder deux choses. D'abord, l'inflation interne. Selon l'agence Fitch Solutions, l'inflation marocaine est contenue autour de 1,6%.
1,6, c'est super bas, même si ça a été un peu révisé à la hausse.
C'est très bas. Et ça, c'est justement grâce au fameux bouclier de la cocotte minute dont tu parlais. Donc, la banque centrale n'a pas besoin de monter ses taux pour casser la demande interne.
D'accord, l'inflation est sous contrôle, mais il y a autre chose, non?
Ouais, le taux de change. Le dirham fait face à de grosses pressions face au dollar en ce moment. Et comme le pétrole et le gaz s'achètent en dollars, si le dirham baisse, les importations coûtent encore plus cher.
Donc, Banque Al-Maghreb a les mains liées. Elle doit suivre ce que font les autres banques centrales, genre la Banque Centrale Européenne?
Totalement. Si la BCE garde des taux hauts, le Maroc doit suivre la cadence pour protéger le dirham. Mais s'il monte trop les taux alors que l'inflation n'est qu'à 1,6%, il casse le trade immobilier, il tue la croissance.
Ah oui, c'est vraiment naviguer à vue, quoi.
C'est ça. Le maintien à 2,25. C'est stratégique pour pas casser la machine tout en gardant des munitions.
Et pour rassurer tout le monde sur cette gestion de la cocotte minute, j'ai vu que l'État lance une immense feuille de route 2026-2032 pour les finances publiques.
Oui, avec une évaluation PFA.
C'est ça. Juste pour clarifier, le PFA, c'est bien ce gros audit international qui certifie la transparence et la bonne gestion d'un pays ?
Exactement. L'objectif, c'est de montrer patte blanche aux marchés internationaux. Des budgets axés sur la performance, sensibles au climat, au genre.
Montrer patte blanche, ouais, c'est d'autant plus crucial que le pays s'apprête à signer un chèque colossal, le fameux plan d'investissement public de 190 milliards de dirhams.
C'est titanesque. Ça représente presque 12% du PIB de 2024.
12% de la richesse d'un pays engagée en un an. Surtout pour préparer 2030, avec les infrastructures. Mais il y a une victoire intéressante là-dedans. Le FMI confirme que ces infrastructures, genre les télécoms et les ports, ont vraiment eu un impact.
Ah oui, l'impact est indéniable. Le FMI dit que depuis 2005, ces grands travaux ont généré un cinquième de la croissance de la productivité, 20%.
C'est énorme. Mais concrètement, comment un port ou de la fibre optique, ça booste la productivité globale comme ça?
Imagine une usine de textile, disons, à Kenitra. Avant l'autoroute étant Gemed, exporter des vêtements vers l'Europe, ça prenait des jours. Des retards à la douane, des routes mauvaises.
Impossible de faire du flux tendu, quoi.
Voilà. Aujourd'hui, avec la logistique de place mondiale, l'usine expédie en quelques heures. Elle produit plus vite, avec les mêmes machines. C'est ça le gain de productivité.
Je vois. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le FMI met un gros coup de frein à l'enthousiasme.
Ah bah oui, la fameuse note de bas de page.
Ouais. Déjà, ils alertent que la dette publique va augmenter de 7 à 8 points de PIB. Mais il y a surtout cette notion terrible de fuite par les importations. Apparemment, 60% des dépenses pour les rails et les aéroports partent direct à l'étranger.
Et ça, c'est la grande faille du modèle. Quand tu décides de construire une nouvelle ligne TGV, l'entreprise locale va couler le béton, bien sûr, mais la haute technologie.
Les rames de train, les radars.
C'est ça. Les radars, l'ingénierie, tout ça est importé d'Europe ou d'Asie. Donc sur 110 rames dépensées, 60 atterrissent chez des industriels étrangers.
En fait, c'est un peu comme s'acheter une voiture de sport ultra luxueuse à crédit pour faire le taxi en espérant doubler ses revenus. Sauf que tu dois importer le moteur d'Allemagne, les pneus du Japon et tu oublies de budgéter l'entretien annuel avec des pièces importées à prix d'or.
L'analogie est parfaite. La dette est locale, mais la richesse créée a fui ailleurs.
Surtout que le FMI pointe du doigt les dérapages de coûts sur ses projets. Très souvent, les budgets débordent de 20 à 50%. Et si tu dépasses ton budget de 30%, les gains de PIB que tu espérais, ils s'évaporent complètement.
Analyse.
Oui, parce qu'inaugurer un stade ou une gare TGV, c'est majestueux, ça brille. Mais la vraie économie, elle se juge dans les salles d'attente des cliniques.
Exactement. Les infrastructures de base du quotidien.
Et ça nous amène à la réforme de la MAO, l'assurance maladie obligatoire. Le vrai test de la cohésion sociale, en fait. Le projet de loi, c'est le 50-83, qui unifie tout sous la CNSS.
La CNSS qui absorbe la CNOPS, oui.
Voilà, sur le papier, c'est logique, on fusionne les caisses. Mais le Conseil économique, social et environnemental, le CSE, vient de tirer une énorme sonnette d'alarme.
Le CSE a détruit le mythe, clairement.
Complètement. Parce que le chiffre officiel, c'est que 86% de la population est désormais immatriculée. C'est génial, par rapport aux 60% de 2020. On se dit, Hourra, victoire!
Sauf que c'est une illusion statistique monumentale.
Mais grave, parce qu'en fouillant bien, il y a 3,5 millions de personnes qui ont des droits fermés. C'est énorme, c'est plus de 11% des immatriculés.
Et droits fermés, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que le gars est dans la base de données informatique, oui, mais s'il tombe malade demain, il n'est pas remboursé.
Pourquoi? Comment ça arrive?
Bah, précarité du marché du travail, l'économie informelle, un artisan cotise quelques mois, puis il galère, il arrête de payer. Le système ferme ses droits, mais le garde dans les statistiques globales. Du coup, ça fausse tout. Et au total, si on compte cela plus ceux qui ne sont pas inscrits du tout, on arrive à 8,54 millions de personnes qui ne sont pas effectivement couvertes.
23,2% de la population ? Sans filet de sécurité.
Et pour ceux qui ont la chance d'être couverts, il y a cette absurdité totale que soulèvent nos sources, la fameuse tarification nationale de référence, la grille sur laquelle l'État se base pour rembourser, elle n'a pas bougé depuis 2006.
20 ans. 20 ans d'inflation médicale ignorée.
C'est lunaire. Tu payes un spécialiste 310 dirhams aujourd'hui, mais la caisse calcule ton remboursement sur un tarif de 100 dirhams fixé il y a 20 ans. Donc tu payes la grosse majorité de ta poche. J'adore cette citation du texte. On ne fait pas disparaître les troncs en repeignant le plafond.
Ah, l'image est violente, mais c'est exactement ça. Si l'on relie cela à la situation globale de l'économie, c'est très inquiétant. Déplacer la caisse du public, qui est déficitaire, vers une caisse plus grande, ça résout pas le déficit.
Un trou plus un trou, ça fait juste un plus gros trou, quoi.
Voilà. Le CESET dit qu'il faut absolument une étude actuarielle sérieuse, intégrer l'économie informelle et mettre à jour ses tarifs. Sinon, cette réforme, c'est juste l'État qui déplace le risque financier vers le citoyen. Et la santé, c'est le coût de la vie ultime.
C'est fou quand on y pense. D'un côté, on subventionne le gaz pour protéger les gens de l'inflation mondiale, mais de l'autre, ils risquent la faillite s'ils doivent se faire opérer.
C'est le paradoxe absolu.
Mais bon, pour être en bonne santé, il faut déjà manger, hein. Et c'est notre dernier gros point, la géopolitique et la sécurité alimentaire. Comment le Maroc sécurise son assiette face au reste du monde?
Et là, on est sur une vraie réussite reconnue internationalement. La Banque mondiale a salué la résilience alimentaire du Maroc. Aidée par de bonnes pluies fin 2025, certes, mais pas que.
Non, le vrai atout dans la manche du royaume, c'est le sous-sol. Les 70% de réserves mondiales de phosphates.
L'ingrédient indispensable pour les engrais mondiaux. Sans ça, l'agriculture mondiale s'effondre. Le Forum économique mondial cite même le pays en modèle pour concilier cette sécurité alimentaire et la transition énergétique.
Et c'est là qu'on voit une vraie offensive diplomatique. Ils ne se contentent pas de vendre des cailloux, quoi. Il y a eu cette rencontre avec le président du Parlement du Mercosur. L'idée, c'est de devenir la porte d'entrée sud-américaine vers l'Afrique, c'est ça?
Exactement. Et il y a eu aussi cette signature au Caire, avec l'Égypte. 12 accords bilatéraux d'un coup.
12? Dans quel domaine?
Ça couvre tout. La santé, la jeunesse, l'industrie, les douanes. Le Maroc change de statut sur l'échiquier mondial.
Il devient incontournable, en fait. Mais tu parlais tout à l'heure d'une co-construction de chaînes de valeur sud-sud. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain?
Concrètement, au lieu d'exporter la roche brute pour que le Brésil ou d'autres fabriquent l'engrais chez eux, le Maroc noue des partenariats pour construire des usines de transformation directement avec ses partenaires du sud.
Ah, on garde la valeur ajoutée.
C'est ça. On produit l'engrais adapté localement, on s'assure une place vitale, c'est une vraie diplomatie des phosphates.
Eh bien, si on résume concrètement, qu'est-ce que tout ça implique? J'ai l'impression que le Maroc joue une partie d'échecs sur trois niveaux en même temps.
C'est une bonne image, oui.
Sur le premier plateau, c'est l'urgence. Absorber les chocs immédiats, payer les surtaxes du fret, maintenir le bouclier sur le gaz. Sur le deuxième plateau, c'est la maçonnerie sociale interne, la restructuration de l'AMO, les finances publiques. Et sur le troisième plateau, tout en haut, c'est la vitrine de 2030, la diplomatie mondiale, les infrastructures.
C'est la synthèse parfaite. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale, un peu provocatrice, pour clôturer cette analyse.
Ah, je t'écoute.
Si on repense à ce chiffre du FMI, les 60% de l'argent investi dans les grands chantiers qui fuient à l'étranger via les importations, ne serait-il pas temps de repenser totalement l'industrialisation locale?
Comment ça?
Imagine si la construction de chaque nouveau stade ou de chaque kilomètre de rail TGV était conditionnée à la création d'une industrie lourde au Maroc. Si cet argent restait dans le pays, ça générerait des impôts, des emplois stables.
Et ces impôts pourraient financer structurellement les déficits de l'assurance maladie.
Exactement. Le vrai défi de demain, c'est peut-être pas de savoir construire grand, c'est de savoir faire en sorte que l'argent de ces projets grandioses reste au pays, pour soigner ceux qui les construisent.
Waouh ! Lier le TGV à la clinique du quartier, c'est une perspective qui change tout. Merci beaucoup d'avoir partagé cette curiosité intellectuelle avec nous.
Je t'en prie, c'était passionnant.
Et voilà qui conclut notre exploration du jour. On gardera un œil très critique sur les grands titres économiques dorénavant. Parce que derrière les méga-projets, il y a toujours une salle d'attente quelque part. À très vite pour continuer de décrypter tout ça.